Vous écoutez
RMC.
Jeudi 18 août,
l'info sur RMC.
Il est 6h sur RMC, tout de suite votre premier journal avec Alexandra Sirgan. Bonjour Alexandra.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Dans le sud-est, des orages impressionnants hier soir et pas de gros dégâts à déplorer. La vigilance orange orage est levée ce matin. Les proches du jeune Afghan décédé à Colmar ce week-end demandent justice alors qu'aucun suspect n'a été interpellé. Et puis deux Français sur le podium à Munich, l'argent et le bronze aux 110 mètres et des championnats d'Europe d'athlétisme.
On commence donc par les intempéries et les Bouches du Rhône violemment touchées hier soir.
Des orages intenses et des pluies soutenues. Le centre-ville de Castille a été traversé par un torrent d'eau sans faire de dégâts importants. À 25 km de là, à Marseille, 35 mm de pluie sont tombés en moins de 45 minutes. Les pourtours du Vieux-Port se sont transformés en véritables pataugeoires. Romane a vu les orages s'abattre sur la ville. Des orages d'une violence inhabituelle selon lui.
En fait, ça a commencé aux alentours de 21h. C'était loin, mais très fréquent. C'est-à-dire que toutes les deux secondes, toujours des éclairs, toujours des flashs. Et à 21h30, il a commencé à avoir une pluie très, très puissante, très violente. C'était vraiment très, très violent. C'était sur, par exemple, nous, sur les vitres, ça venait, ça fouettait les vitres. C'était vraiment impressionnant. Il y a aussi des voitures qui se sont mises à rouler à contresens. C'est peut-être pour éviter les inondations. Ouais, c'est très impressionnant. Franchement, pour Marseille, c'est très impressionnant, ouais.
D'importantes averses aussi dans la région lyonnaise où des centaines de foyers étaient privés d'électricité hier soir. Des grêlons impressionnants ont frappé également le nord de Saint-Étienne. Pluie de grêlons aussi dans le Var, notamment à Hyères où des dégâts importants ont été constatés sur de nombreuses exploitations agricoles. Kevin Gasser.
En seulement 5 minutes hier matin, les grêlons ont ravagé les 2,5 hectares de serres agricoles de Loris Abatiello, producteur hiérois.
On a 4 groupes de serres. Je suis monté sur les toitures pour un peu, on va dire, faire un recensement au niveau des vitres. Je pense qu'on doit être autour des 2000 à 3000 vitres cassées.
Et ces cultures sont également touchées.
Là, c'est une culture de poivrons. Avec les brisures de verre, tout le tuteurage, il a lâché. Donc on va espérer, entre guillemets, les récupérer, même s'il va avoir énormément de casse. Là, c'est 200 ou 300 000 euros minimum de chiffre d'affaires qui s'envolent. L'espace de 5 minutes.
Hier, le maire de la commune, Jean-Pierre Girand, a visité une dizaine d'exploitations sinistrées.
Je prends l'exemple d'un très gros horticulteur. Il a perdu 40% de ses récoltes et une jeune maraîchère a perdu la totalité de ses productions de patates douces, de courgettes et de salades.
L'élu a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Mais il y a des risques qui ne sont pas assurés et notamment peu d'agriculteurs sont assurés contre le risque de grêle.
Selon une estimation de la Société du marché aux fleurs d'hier, la profession horticole du département devrait perdre 20% de son chiffre d'affaires.
Et on vous attend au 32-16. Venez témoigner si la nuit a été agitée chez vous, notamment du côté de Marseille ou Castille, du côté de Saint-Étienne aussi, des orages de grêle. 32-16, l'application RMC pour témoigner.
RMC 6h33, à Colmar, la traque du tireur continue après la mort d'un jeune Afghan de 27 ans, tué par balle pour avoir demandé à un conducteur de scooter de faire moins de bruit. Toujours aucun suspect n'a été interpellé. Une équipe de CRS est actuellement sur place à Colmar, dans le quartier de l'Europe, pour empêcher d'autres rodéos urbains. On fait le point sur cette enquête avec notre journaliste police-justice, Maxime Lévy.
4 jours que les enquêteurs de la police judiciaire de Mulhouse sont à la recherche du tireur et de ses complices. Les policiers ont bien sûr à leur disposition le scooter laissé sur place par l'un des suspects. Il y a également les images de vidéosurveillance du quartier. Une caméra est présente sur le rond-point situé à quelques mètres seulement du lieu du drame. Enfin, de nombreux témoins, des amis, des membres de la famille de la victime ont assisté à la scène. Des auditions précieuses pour les enquêteurs. Autant d'éléments qui rapprochent la police du tireur et de ses complices. Mais depuis dimanche, les proches d'Abdoul commencent à trouver le temps long.
En fait, il y a des caméras, ils ont des preuves, ils ont tout en fait. On veut qu'eux, ils attrapent plus vite la personne qui a tiré sur lui en fait. On veut juste la personne.
Est-ce que c'est normal? Là, il a tué l'Abdoul. Il est décédé. À cause de qui?
Les proches de la victime l'assurent, tant que le tireur n'aura pas été arrêté, des manifestations sont prévues dans la région, mais aussi à Paris.
Le ministre de l'Intérieur assure pourtant que tous les moyens sont mis en œuvre dans cette affaire. En déplacement dans un commissariat à Créteil hier, Gérald Darmanin a défendu son bilan en matière de lutte contre ces rodéos. 2200 personnes interpellées et 1800 scooters saisis depuis le début de l'année, selon lui.
Et vous, est-ce que vous êtes confronté à ces phénomènes de rodéos urbains autour de chez vous, dans vos quartiers, chez vos proches? Venez témoigner au 3216 sur l'application RMC. Faut-il accentuer la répression? Faut-il aussi développer des actions de prévention. On en parlera tout à l'heure à 7h40 avec deux invités, des associations qui proposent notamment des stages de motocross pour essayer d'encadrer ces pratiques. Qu'est-ce que vous en pensez? 32-16, l'application RMC.
Nouvelle alerte de l'OMS concernant la variole du singe. Un premier cas de transmission d'un humain vers un chien a été détecté à Paris. À l'heure actuelle, près de 2700 cas sont confirmés en France. 30 000 personnes ont été vaccinées. Et puis des messages anti-vaccination sont diffusés sur des panneaux publicitaires à Toulouse, anti-vaccination contre le Covid. Depuis le mois de juillet, ces messages se multiplient dans la ville rose. 9 panneaux ont été signalés au grand désarroi de nombreux professionnels de santé. Du côté des habitants, les avis sont plus partagés. Reportage d'Émeric Dantreuil.
À Toulouse, le long d'un axe fréquenté, un grand panneau publicitaire s'offre à la vue des passants. Dessus, un message.
Vaccination Covid, un effet secondaire grave sur 100. Et si c'était votre enfant?
Pour l'instant, la mairie de la ville en a recensé 9. Pour Anna, une passante, rien de choquant. Roger, lui, est un peu plus gêné.
Ça m'a surpris un peu. C'est la première fois que je vois un panneau comme ça. Ça demande d'être vérifié. Est-ce que vraiment il y a un effet secondaire grave sur 100? Qu'est-ce que c'est que cet effet secondaire? Je n'en sais rien.
Certains finissent quand même par douter, comme Audrey qui rentre chez elle avec sa petite fille.
On ne sait pas s'il faut s'y fier. On savait pas forcément grand chose au moment où il a fallu se faire vacciner. Ça pose question.
À l'origine de ces affiches, deux organisations anti-vaccination. Pour le docteur Jean-Christophe Calme, président du groupe URPS des médecins libéraux d'Occitanie, c'est tout simplement de la désinformation.
On peut prendre des chiffres et dire tout et n'importe quoi, mais ça ne correspond absolument à rien. Si un Français sur 100 s'était retrouvé à l'hôpital, ça ne serait pas passé inaperçu. Quand la liberté d'expression va à l'encontre du bien public, ça nécessite une action des pouvoirs publics locaux pour interdire cet affichage.
D'après la mairie, il est impossible de retirer légalement ces affiches qui sont collées à des panneaux d'une société privée. Seule la constatation d'un trouble à l'ordre public pourrait justifier un tel retrait.
Et on reviendra sur ces affiches choc à Toulouse avec le docteur Jean-Christophe Calme que vous venez de voir dans le reportage. Il sera en direct avec nous à 6h40. Il demande le retrait de ces affiches. RMC, 6h07. Certains vacanciers ont vécu l'horreur cet été dans un camping à Saint-Hilaire-de-Riez. C'est en Vendée.
Piscine verdâtre, équipe absente et logement insalubre. Ce camping appartient au groupe Venaya. Deux campings du groupe ont déjà été épinglés par l'agence régionale de santé après plusieurs plaintes. Dans celui-ci, l'ARS a demandé en début de semaine la fermeture de la piscine et la tension est montée d'un cran. Le responsable salarié a été roué de coups par les vacanciers. Reportage au camping 4 étoiles de la Puerta del Sol de Marion Tessène avec BFM TV.
Équipement insalubre, manque d'entretien, activité inexistante. La liste des réclamations des vacanciers est très longue.
Rien ne va quoi, rien ne va.
Noëlla est scandalisée par l'état des lieux.
On nous annonce un camping paradisiaque sur le site, c'est magique. Et en fait, on arrive là, il n'y a rien du tout de ce que l'on voit. Il n'y a pas d'hygiène, que c'est sale, l'eau de la piscine est verte. Quand on veut effectuer une machine à laver, il y en a une qui fonctionne sur quatre.
Autre client mécontent, Magali et sa famille qui vont réclamer une compensation.
C'est de la publicité mensongère, on nous promet, on nous vend du rêve sur un site internet où vous avez un complexe aquatique, tout est propre, des animations. C'est la cata, on n'a jamais vu ça.
Les tensions sont telles que dimanche dernier, le responsable salarié du camping a été roué de coups et il n'y a pas que les vacanciers qui sont inquiets. Cet employé, qui souhaite rester anonyme, a également constaté que le camping était en quelque sorte laissé à l'abandon à tel point qu'il s'inquiète pour son salaire à la fin du mois.
Alors les 6 heures supplémentaires pour les animateurs, elles n'ont pas été payées pour l'instant. Donc ils attendent, suivant leur contrat, à ce qu'elles soient payées.
La direction du groupe Venaya a annoncé un remboursement à hauteur de 30% pour les vacanciers qui le réclament.
L'Ukraine doit se préparer à tous les scénarios concernant la centrale de Zaporijjia, annonce du ministre ukrainien de l'Intérieur. Cette centrale nucléaire, la plus grande d'Europe, est la cible de plusieurs frappes depuis le début du mois. Le secrétaire de l'ONU se rend aujourd'hui en Ukraine pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Il est 6h09 sur RMC. On en vient à cette belle soirée des Français au championnat d'Europe d'athlétisme. 3 nouvelles médailles.
Oui, à Munich, dont 2 aux 110 mètres et l'argent et le bronze. Le vice-champion européen Pascal Martineau-Lagarde était à quelques millimètres de l'or. L'écart est à peine perceptible sur la photo finish. C'est l'Espagnol Asier Martinez qui a remporté la course. Un scénario qui fait sourire le Français.
Le scénario est beau et le scénario est similaire au dernier championnat d'Europe. Je suis arrivé avec le maillot jaune en battant Sergei Choubenkov sur la ligne d'arrivée. Et aujourd'hui, le scénario, c'est justement l'inverse. C'est pas moi qui a coupé la ligne en premier. Cette fois-ci, c'est Martinez, on peut pas gagner tout le temps. Et j'ai entendu que c'était un truc comme 1 ou 2 millièmes. C'est rien de chez rien, de chez rien. On parle même pas de performance, on parle limite de chance. Aucune déception, j'ai tout donné, j'ai tout essayé. Vice-champion d'Europe.
Le bronze a été décroché par juste Kwawu Maté. Et puis du bronze également pour Jean-Marc Ponviane en triple saut. Et puis cela faisait, puis on part à Rome où cela faisait 10 ans que le championnat, que la natation française n'avait pas réalisé une telle performance en championnat d'Europe. L'équipe de France rentre donc de Rome avec 13 médailles dans ses valises. 3 médailles obtenues hier, dont 2 d'argent pour le relais 4 nages hommes et femmes.
Bon, bah ça fait des bonnes nouvelles pour les Français, ça, pour le sport français, c'est pas mal. Alexandra Sirgan, merci beaucoup. C'était le journal 6h10. Bonjour Anaïs Castagna.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
T'as suivi un peu les courses d'athlètes là hier soir?
Déception pour Sacha, le petit Sacha de 17 ans dont on parlait hier avec Léna.
Ouais, enfin, deux Français sur le podium quand même.
C'est beau.
Et puis alors, ça s'est joué à rien. Il aurait pu être champion d'Europe. Hein.
Bien sûr.
Vraiment, ça se joue, c'est même pas une épaule.
C'est beau, mais nous, on rêvait des quatre. Dans l'ordre.
Oui, c'est ça, oui. C'est plus que le quarté dans l'ordre. On aurait aimé, mais bon, c'est pas si mal. Finalement, on disait que ces championnats d'Europe allaient être une catastrophe pour les Français. Bon, bah, il y a déjà 4 médailles, c'est pas si mal. Peut-être encourageant. On va rêver de cette nouvelle génération, que cette nouvelle génération brille à Paris, évidemment, en 2024. Et puis la natation, pas mal aussi. T'as regardé, Alexandra?
Alors, non, je dormais à ce moment-là,
heures,
mais
j'ai tout suivi
avec attention ce matin. Ouais, très belle victoire.
Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur RMC 6h11.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin, le débat du jour sur RMC, le rodéo en question ce matin. Le fléau des villes fait des victimes, épuise les habitants, mobilise aussi les policiers. Est-ce que des solutions existent? Faut-il plutôt faire multiplier les contrôles, comme le veut le ministre de l'Intérieur, ou faire davantage de prévention avec les jeunes? On vous pose clairement la question ce matin. On vous attend au 3216 et sur Direct Studio.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 6h12 sur RMC. Très bon réveil. Alors, quelle solution face au rodéo urbain qui semble se multiplier cet été avec plusieurs drames encore ces derniers jours? Mardi soir, un jeune homme est mort à Marseille après avoir perdu le contrôle de sa moto. À Colmar, dimanche dernier, c'est un Afghan de 27 ans qui a été tué dans une altercation alors qu'il se plaignait du bruit. Et puis, il y a cette petite fille à Pontoise dont on a beaucoup parlé, grièvement blessée, renversée par une moto. Elle est finalement sortie du coma. Le ministre de l'Intérieur, qui était dans le déplacement à Créteil hier, promet un renforcement des contrôles. Il demande au commissariat de multiplier les opérations et les interpellations. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que la répression est suffisante? On vous attend au 32-16, on en parle tous ensemble. Y a-t-il d'autres solutions? Faut-il aussi faire de la prévention? Vous allez voir que dans certains quartiers, des alternatives sont tentées, à proposer des stages de sensibilisation, par exemple, pour permettre de pratiquer la moto, mais de façon encadrée, en sécurité. Regardez cet exemple à Évreux dans l'Eure, et j'attends vos réactions au 32-16 et sur l'application RMC. C'est le reportage de la rédaction, il est signé Nicolas Traîneau.
Dans le quartier de la Madeleine, où les courses sauvages de moto sont une tradition, les éducateurs de rue retrouvent Yanis, un jeune de 17 ans qu'ils connaissent bien. Ils l'ont accompagné cet été une semaine en stage anti-rodéo urbain pour apprendre aux adolescents les bonnes pratiques de la moto.
Depuis qu'on est petit, on voit les gens faire de la moto, lever, lâcher les mains. C'est banal, mais en vrai, c'est stylé.
Et après cette semaine, est-ce que tu penses toujours la même chose?
Si demain j'ai une moto au quartier qu'on me propose, je vais en faire. Je vais pas mentir, mais j'ai compris qu'il y a des risques, des tenues à avoir et qu'il faut pas se mettre en danger bêtement.
Son éducateur INSA écoute attentivement, convaincu que la prévention est plus adaptée dans ce quartier.
Bah oui, ça marche, j'en suis convaincu. Maintenant, c'est un travail de fond qu'on est en train de faire, c'est pas un travail de forme. Je comprends le répressif, mais est-ce que ça va pas étirer la fracture qu'il y a déjà entre la jeunesse et les forces de l'ordre?
Le ministère de l'Intérieur finance 80% de ces stages, encore peu répandus. En contrepartie, les jeunes s'engagent dans des chantiers participatifs avant le départ, un engagement essentiel pour la chef des éducateurs d'Évreux, Virginie Mendy.
Effectivement, le séjour a un coût, mais chaque jeune qui est parti a participé en amont à des actions de sensibilisation sur son quartier. Ce n'est pas des vacances, ce n'est pas non plus une récompense.
Une fois sur place, près de Chalon-sur-Saône, les jeunes apprennent à être plus raisonnables, ateliers de sécurité routière avec les policiers, débats et la pratique de la motocross. Une pédagogie mise en place par Aimé Bacop, le fondateur de ce stage, aux côtés d'un nouveau groupe d'ados en ce moment.
On essaye par tout ce parcours d'amener les jeunes à une réelle réflexion. On a vu que 30% des jeunes qui étaient tués sur la route ou qui avaient des accidents graves, c'était des jeunes qui n'avaient pas la maîtrise du deux roues. Donc ici, il y a des professionnels qui aident les jeunes dans la prise en charge d'un véhicule deux roues. On leur apprend les gestes de premier secours en cas où ils devraient agir un jour. C'est un programme intensif. Même s'ils nous ont trouvé très dur sur des choses, on est quand même assez content des jeunes qu'on reçoit.
L'objectif aussi est d'inciter les jeunes à se tourner vers une association pour pratiquer leur passion de manière encadrée sur des terrains plus adaptés que les trottoirs de leur quartier.
Alors que pensez-vous de ces actions de sensibilisation? Est-ce que c'est aussi peut-être une partie de la solution? On vous pose la question ce matin, 32-16, l'application RMC. Et nous sommes avec Isabelle au 32-16. Bonjour Isabelle.
La voix grave, c'est ce que j'expliquais au standard, c'est que...
Comme bonjour Isabelle. Avec...
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Oui, ça va, vous allez bien ce matin?
Oui, ça va. Je disais à votre standard qui me disait, mais vous vous énervez pas. Je dis, non, mais j'ai la voix grave à cause du ventilateur. Voilà, on a chaud, nous aussi.
Oui. Appelez de Marseille, oui, Isabelle. Vous êtes confrontée à ces rodéos, oui. Vous en avez en bas de vos fenêtres?
Oui, j'en ai en bas de ma fenêtre. Et ce que j'expliquais au standard, un jour, vous savez, il y a une voie de bus, en fait, il y a une voie de bus, je traverse, il y a une voie normale et une voie de bus. Ils la prennent en sens inverse, donc nous on attend, on voit si le bus passe d'un côté, eux ils la prennent en sens inverse. L'autre jour j'ai failli me faire renverser, le mec il m'a pas évité, je l'ai insulté, c'est sorti tout seul, mais c'est lui qui m'a insulté. Il s'est arrêté derrière, j'ai cru que j'allais me faire... Bon, ça va, je connais tous les commerçants, mais ils sont violents. Je ne crois pas au stage de sensibilisation. Voilà pourquoi j'interviens. Je n'y crois absolument pas. Et moi, dans mon quartier, il y en a, la nuit, le jour. Quand vous voyez là, la petite fille, tous ces gens-là, le mec à Colmar, on ne peut pas s'interposer. Et la police ne s'interpose pas à Marseille. Ça, je vous le garantis. Et la sensibilisation de quoi? Il n'y a pas que dans mon quartier, j'ai une amie qui habite dans le 8e.
Vous dites que la police n'intervient jamais? La police n'intervient pas?
Jamais de la vie. Vous savez, ils n'interviennent même pas quand il y a de la violence en bas, quand le square devient boîte de nuit, ils n'interviennent pas. Mais il n'y a pas que dans mon quartier, dans le 8e, qui est quand même un quartier plutôt chic dans Marseille, il y a un parking, j'ai une amie qui y habite, ils font le rodéo. Alors ils n'ont pas de casque, ils n'ont rien.
Mais est-ce que justement, avec ces stages, alors stages de sensibilisation ou en fait tout simplement stages de pratique de la moto pour aller en fait se défouler et de façon un peu plus encadrée, est-ce que ça peut pas être une forme de solution aussi, de proposer une alternative en fait, de canaliser un peu tout ça?
Non, je n'y crois pas. Je vous assure, monsieur, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce sont des voyous qui font ça. En tout cas, je parle pour ma ville. Hein. Ce sont des voyous, vraiment. Ce sont des voyous.
Alors écoutez, peut-être ce qu'en pense Damien, Isabelle, vous pouvez rester avec nous. Bonjour Damien.
Bon, vous allez bien?
Au 32-16, très bien Damien, merci pour votre appel au 32-16, vous nous appelez de Limoges.
Et alors,
je vois sur votre fiche que vous avez tenté des choses, vous avez proposé des choses.
Et ça a marché pendant un certain temps. Mais
alors dites-nous ce que vous avez proposé.
Alors il y a des motos qui sont arrivées sur un site sécurisé que je faisais il y a très longtemps.
Et c'était donc, quoi, un parking, un terrain vague, c'était quoi?
C'était un grand parking avec un magasin, grand parking. Donc moi je suis allé les voir et tout, j'ai discuté avec eux, donc chercher des terrains pour faire ça, j'ai dit oui c'est privé. Donc j'ai dit écoutez, moi j'ai tenté une médiation, j'ai appelé le client le soir même, j'ai vu avec le client a donné son accord, c'est une seule raison, que le terrain reste propre.
D'accord. Je précise que vous êtes agent de sécurité, donc c'était l'un de vos lieux de travail, c'est ça?
Tout à fait, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc c'était une négociation. Ils ont tous été d'accord. Et ça a duré pendant plusieurs temps. Et puis après, quand le client a relâché le contrat qu'ils avaient de location du terrain, après ça s'est arrêté là.
Et alors, du coup, ces jeunes, ils venaient sur le parking, ils faisaient leur rodéo entre guillemets sur ce parking.
Ah oui. Oui. Voilà. Mais vu que c'est un terrain qui est privé, c'était différent. Ouais. Terrain privé, accord propriétaire, donc c'est l'association. Après, naturellement, si dommage, s'ils se cassaient la gueule, qu'ils s'est blessé, c'était à la responsabilité à eux-mêmes.
D'accord. C'est comme ça. C'est voilà. Ça aussi, parce que effectivement.
Et après, du coup, les rodéos urbains ont baissé dans le même temps.
Alors en fait, ils n'ont pas baissé, ils ont justement été déplacés. Ils sont partis de la rue à un parking.
Et du coup, il y en avait moins dans le quartier, du coup. Ils étaient canalisés, entre guillemets. Ça a fonctionné.
Oui, parce que c'était un accord, donc tout se passait bien. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Après, ce qui est arrivé à Marseille, il est assez triste. Mais après Limoges, ça s'est un peu remonté. Des fois, ça redescend. Mais le seul moyen, c'est de prendre les motos et les foutre à la casse. Directement, sans passer par la caisse départ.
Oui, bien sûr. Mais alors, ça fait partie des saisies de motos. Ça fait partie des annonces du renforcement des sanctions aussi. On va en parler tous ensemble. Merci pour votre témoignage, Damien. Je salue également Isabelle à Marseille. 32-16, ça vous fait réagir. L'application RMC. Et à 7h40, tout à l'heure, on sera du côté de Lyon, Vaux-en-Velin précisément, avec un associatif qui essaye aussi de trouver des solutions. Il nous racontera tout ça. 6h20 sur RMC.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, ce sont nos pépites RMC, les histoires du jour avec Anaïs Castagna et Quentin Dubois. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce que tu nous racontes ce matin?
On va parler d'une école de sorcellerie qui va bientôt ouvrir en Bretagne.
A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Très bon réveil avec RMC et RMC Story, les 6h24.
Les pépites RMC.
Les pépites RMC, ce sont nos histoires du matin avec Anaïs Castagna et avec Quentin Dubois. Quentin, on commence donc par cette école de sorcellerie en Bretagne.
Oui, les fans d'Harry Potter vont être ravis. Une école va ouvrir sur ce thème pendant les vacances de la Toussaint au château Le Rocher Portail, situé à Menrock, au nord-est de l'Ille-et-Vilaine. Manuel Roussel, le propriétaire du château depuis 2016, a eu cette idée en voyant la salle à manger que le château possède quasiment aux mêmes dimensions que celle du film, et ça lui a donné envie de créer son école de magie bretonne inspirée de l'univers d'Harry
J'adore,
Potter.
J'adore, ouais,
c'est
y aller.
Le Poudlard breton. C'est incroyable. On reconnaît la musique d'Harry Potter, inspirée d'Harry Potter. C'est pas totalement officiel cette histoire.
Oui, on parle là d'inspiration parce qu'il a pas eu les droits auprès de Warner, la boîte de production des films, pour l'utilisation des noms ou des visuels de la saga. Le problème a été résolu très vite puisque datant du XVIIe siècle, le château Le Rocher Portail a une longue histoire qui lui est propre. Il a appartenu à plusieurs familles à travers le temps, ce qui a permis d'adapter l'histoire du château et celle des familles qui l'ont possédé à l'univers d'Harry Potter.
Ah oui, parce qu'il y a plein d'histoires de sorcellerie en Bretagne.
Et autres.
Non, il a dû changer les noms. C'est ça, il a dû changer les noms.
En tout cas, on s'immerge dans le monde des sorciers et des sorciers bretons.
Oui, tout est prévu. La réception de la fameuse lettre d'admission, les tableaux qui parlent, la répartition dans les maisons et même une plongée dans les légendes locales. C'est une adaptation du château de Poudlard, mais dans l'univers de la Bretagne. Cette école de magie n'accueillera pas de vrais étudiants. Désolé, le château organise d'autres événements durant l'année. Pour le moment, c'est uniquement pendant les vacances de la Toussaint, mais au vu de l'engouement que ça génère, il y aura certainement plus dans l'avenir. La billetterie ouvrira en septembre pour les intéressés. Il va falloir être réactif car les places vont partir très très vite.
Pour les enfants, l'idée de les vacances de rêve à la Toussaint, quoi. Ouais. Comment ils font pour les tableaux qui parlent? Là, par contre, je vois pas. Mais
c'est des robots, c'est de la technologie
impressionnante.
Prévue pour ça.
Merci Quentin. Anaïs, deux voleurs de cartes Pokémon. Ah oui, c'est très sérieux. Deux voleurs de cartes Pokémon viennent décoper de peine de prison ferme.
Ouais, dit comme ça, ça peut paraître excessif, mais le braquage était particulièrement violent et le butin beaucoup plus gros qu'il n'y paraît. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Un collectionneur de cartes Pokémon de 21 ans met en vente sa collection sur Internet, sur le site Le Bon Coin. Il reçoit une offre de 15 000 euros. Le collectionneur est d'accord pour lui vendre et il donne rendez-vous à l'acheteur chez lui à Montagneux, dans l'Isère, pour effectuer la transaction. Sauf que l'acheteur n'avait pas du tout l'intention de le payer. Il est venu avec un ami pour tout dérober. Le collectionneur a été tabassé et menacé avec une arme à feu. Les deux voleurs de 18 et 25 ans sont repartis avec le butin et ils ont revendu les cartes 2000 euros. Alors évidemment, la victime a porté plainte et les deux voleurs ont été retrouvés. Ils sont passés cette semaine en comparution immédiate et ils ont en effet écopé de peine de prison. 2 ans, dont 1 an de prison ferme pour l'un. 1 an, dont 6 mois de prison ferme pour l'autre, avec l'obligation de rembourser évidemment les cartes.
Ouais. Alors pourtant, on ne parle pas de braquage de bijoux, là, on parle vraiment de cartes Pokémon.
Mais les cartes Pokémon, ça peut valoir très cher, mon cher Sébastien. Aujourd'hui, ça s'arrache sur Internet, c'est de la folie. Certains collectionneurs étant prêts à débourser des sommes folles pour les cartes les plus rares. Le record, 5,2 millions de dollars pour une carte Pikachu Illustrator. Une carte qui n'existe qu'en 39 exemplaires, dont une seule certifiée en parfait état. À ce prix-là, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil dans le grenier, hein, pour voir si vous n'en avez pas une qui traîne. Mais attention, gare à vous si vous voulez la revendre sur Internet.
C'est ça. Vous avez peut-être des trésors dans les tiroirs.
Attention, il faut que ça soit en parfait état.
Ah oui,
c'est pas
ça.
La carte qui a été gribouillée. Hein.
Carte Pokémon, plusieurs milliers d'euros. On parle d'un bout de carton, hein, on est d'accord. D'un bout de carton.
On parle bien,
très bien.
De ça, ouais.
Ok, c'est bien ça. J'étais pour être sûr. La météo et le journal dans un instant, 6h28. 6h30 sur RMC, sur RMC Story. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, l'info avec Océane Théard. Bonjour Océane.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Une première victime prend la parole au procès de Benjamin Mendy en Angleterre. Accusé de 8 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle, le footballeur français risque la prison à perpétuité. Et après le décès d'un jeune homme lors d'un rodéo urbain à Marseille, la préfète des Bouches-du-Rhône appelle à stopper cette spirale meurtrière. Et enfin, une première médaille à 28 ans pour l'athlète Jean-Marc Ponviane au championnat d'Europe de Munich. Il remporte le bronze en triple saut.
On commence donc par le procès du footballeur français Benjamin Mendy qui se poursuit à Chester en Angleterre.
Le footballeur français est accusé de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle entre 2018 et 2021. Et hier, Pierre Thévenet, une première plaignante, a livré le récit de sa tentative d'agression sexuelle par le footballeur.
Oui, la première jeune femme qui a témoigné fait partie des trois plaignantes qui refusent de se confronter directement à Benjamin Mendy. La justice anglaise autorise les victimes à ne pas se rendre au tribunal pour témoigner. C'est donc dans une vidéo de son audition par la police que la jeune femme décrit une tentative d'agression sexuelle au domicile de Mendy en octobre 2018. L'international français aurait fait irruption dans la salle de bain où elle se trouvait avant d'exhiber son pénis devant elle malgré ses protestations. Tout à l'heure, la seconde plaignante sera elle présente physiquement. Elle aurait été victime de plusieurs viol de la part du footballeur et de son co-accusé Louisa Mathuri. Benjamin Mendy plaide non coupable dans ce procès qui va durer 15 semaines. L'ancien joueur de Manchester City risque la prison à vie.
Il faut stopper le fléau des rodéos urbains à tout prix. Après la mort d'un jeune homme de 19 ans mardi soir à Marseille qui a percuté un poteau alors qu'il faisait une roue arrière sur sa moto, la préfète des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, appelle elle aussi à durcir le ton et à multiplier les contrôles pour mettre un terme à ce phénomène.
Moi, mon message, c'est de dire, il faut qu'on arrête cette spirale meurtrière, que ce soit pour ceux qui font les rodéos ou toutes les autres personnes qui mettent en danger lorsqu'ils font ce type d'activité. Et donc, c'est pour ça que nous sommes mobilisés pour arrêter les rodéos en flagrant délit ou alors aller chercher les motos là où elles sont, les confisquer et ensuite obtenir leur destruction. Nous avons déjà détruit plus de 100 motos dans les Bouches-du-Rhône au cours des 18 derniers mois.
La confiscation des bolides, la répression, le renforcement des contrôles annoncés par le ministère de l'Intérieur. 32-16, je vous attends pour témoigner si ces rodéos vous gâchent aussi la vie dans vos quartiers. Venez nous raconter, est-ce que cette répression suffit? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que la police se retrouve impuissante? C'est le sentiment qu'on a parfois. Venez nous raconter. On parlera à 7h40 de tentatives de solutions de sensibilisation. Est-ce qu'il faut aussi trouver des solutions pour tenter d'encadrer la pratique de la moto, proposer des stages de sensibilisation? 32-16, vos témoignages et vos avis, ça fait débat depuis ce matin sur RMC.
Ce matin, plus aucun département n'est en alerte orange aux orages. Le département des Pyrénées-Atlantiques est en revanche placé en vigilance orange aux inondations. De fortes averses sont notamment attendues sur le Pays Basque. Entre 70 et 100 mm de pluie sont attendus par endroit. Et cette nuit, des trombes d'eau sont tombées du ciel dans les Bouches-du-Rhône, à Cassis et Marseille notamment. Et conséquence de ces pluies diluviennes, des plages du sud sont interdites à la baignade à cause des orages. Des plages varoises ainsi que toutes les plages marseillaises sont concernées, car les averses ont pu entraîner un ruissellement des eaux usées dans la mer. Alors les baigneurs devront prendre leur mal en patience. C'est un reportage de Clémence Fournival à Marseille.
Il est interdit de se baigner, y compris de mettre ses petits petons dans l'eau.
Sur la plage des Catalans, Jody et son ami ont la mauvaise surprise de découvrir qu'elles ne peuvent pas se baigner.
J'étais pas au courant du tout et bah écoutez, oui, je suis un petit peu déçue, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire autre chose.
Venue en famille, Lilia est très frustrée par cette situation.
On était vraiment très contents en fait de voir la mer. On est en vacances, mais malheureusement. On ne peut pas profiter de la mer.
Quelques mètres plus loin, sur les rochers non surveillés, Djilali, venue de Grenoble, s'est quand même offert une petite baignade.
Elle est bonne, franchement, on n'a pas l'air qu'elle est polluée. Je ne sais pas ce qui se passe, la situation à Marseille. Il y a un nocif, franchement, ça reste de la mer.
Pour Victor Hugo Espinoza, président de l'association Ecoforum, la fermeture des plages est nécessaire car la qualité de l'eau n'est pas propice à la baignade.
Il peut avoir des restes fécales, il peut avoir des bactéries, pas mal de métaux lourds, il peut avoir beaucoup, beaucoup de pollutions qui sont néfastes et pas l'homme.
Ceux qui braveraient l'interdiction sur les plages surveillées s'exposent à une amende de 38 euros.
Une déception chez les écologistes. L'autorisation d'utiliser de l'huile de friture au lieu d'essence pour faire avancer sa voiture avait été votée par le Parlement, mais elle vient d'être retoquée par le Conseil constitutionnel. Cette proposition était la seule que les écologistes avaient réussi à faire voter. La pilule est donc difficile à avaler, notamment pour Julien Bayou. Il est secrétaire national Europe Écologie Les Verts et il est à l'initiative de cette proposition.
C'est une déception, évidemment. On parlait de souveraineté énergétique. Et en fait, de pouvoir dépendre de l'huile de friture, transformer ce déchet en ressources, plutôt que d'importer des hydrocarbures des monarchies pétrolières, c'est un enjeu de souveraineté énergétique. Et puis, c'est un enjeu de pouvoir d'achat, évidemment. Donc là, il est retoqué par le Conseil constitutionnel, mais j'ai bon espoir que dans le projet de loi de finances, je puisse le faire passer, cette fois-ci, et à l'Assemblée, et au Sénat, et au Conseil constitutionnel, et qu'on puisse enfin légaliser le fait de rouler à l'huile de friture, alors que ça se pratique en fait déjà beaucoup, et qu'il y a besoin d'un cadre juridique pour encadrer cette pratique.
Et une nouvelle alerte de l'Organisation mondiale de la santé concernant la variole du singe. L'OMS a annoncé hier un premier cas de contamination de l'homme à l'animal. Un chien a été contaminé par ses maîtres en juin à Paris. Ce risque de transmission était connu en théorie des experts, mais c'est la première fois qu'un tel cas est observé. Le secrétaire général de l'ONU va rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Au menu des discussions, les exportations de céréales, mais aussi la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par l'armée russe depuis le mois de mars. L'Ukraine doit se préparer à tous les scénarios, a prévenu hier le ministre ukrainien de l'Intérieur.
Il est 6h36 sur RMC. La guerre en Ukraine, justement, mais aussi la sécheresse, les incendies, l'inflation, le pouvoir d'achat. C'est vrai que l'actualité de l'été a été particulièrement lourde. Il y a de quoi avoir le moral plombé avant la rentrée.
Oui, si certains ont réussi à déconnecter sur la plage cet été, d'autres abordent le mois de septembre avec un peu plus d'angoisse, Mathieu Limongi.
Dans les rues encore, beaucoup de soleil, beaucoup de monde et toujours cet air de vacances. Pourtant ça y est, septembre approche et c'est une source d'anxiété pour Lucille.
D'attaquer une nouvelle année, c'est avec tout ce qui s'est passé récemment, je trouve ça très angoissant. Je trouve qu'on vit dans un monde de plus en plus angoissant. Ouais. Je pense surtout aux futures générations.
Et parmi cette nouvelle génération, il y a Louis. S'il s'est coupé des mauvaises nouvelles pendant les vacances, pour lui la rentrée rime avec retour à la réalité.
L'avenir est très incertain à cause de ça. Je suis bien plus perdu et je sais vraiment pas comment prévoir mon année parce que je sais pas comment le monde va évoluer. Donc je dois avouer que j'ai un peu du mal à me projeter sur l'avenir.
Symptomatique de ces deux dernières années, la difficulté à se projeter peut être un signe de mauvaise santé mentale. Un signal qui doit alors alerter les personnes concernées, selon la psychologue Johanna Rosenblum.
À partir du moment où on est submergé, il faut pouvoir absolument limiter les sources d'informations, mais aussi compenser par des bons moments en famille, des bons moments où on s'occupe de sa santé mentale, par de la méditation, quelque chose qui viendra réguler les émotions négatives.
À l'approche de la rentrée, la psychologue recommande également de ne pas minimiser ses angoisses et d'en parler à son médecin traitant.
Alors comment aborder cette rentrée le plus sereinement possible? On va en reparler tout à l'heure à 8h40 avec le professeur Pellissolo qui est psychiatre et qui nous donnera quelques conseils pour rester serein.
Et puis une bonne nouvelle quand même, pour terminer, une première médaille européenne pour l'athlète français Jean-Marc Ponviane. À 28 ans, il remporte le bronze en finale du triple saut au championnat d'Europe de Munich. Et à peine sa médaille autour du cou, Jean-Marc Ponviane pense déjà aux prochaines compétitions.
Très content, je pense que je ne réalise pas encore. Mon émotion est mitigée et je pense que j'avais encore mieux à faire sur ce concours, mais je ne peux pas cracher sur une médaille, c'est ma première et j'en suis très fier. Je suis un compétiteur. Je vise plus haut. Je vais profiter de cette médaille, ça c'est sûr, mais en mettre au boulot pour aller chercher mieux encore.
Et deux autres médailles ont été remportées hier soir en 110 mètres haies. Pascal Martino Lagarde remporte l'argent et Juste Kouaoumaté le bronze.
Les courses, c'est à Deauville ce soir à 20h15.
Les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Sa favorite, c'est le numéro 3, O2. Son outsider, c'est le numéro 8, Abondant. Le 3, le 8. La course du Quintet, c'est à suivre en direct sur RMC Découverte.
Océane TR pour le journal. Il est 6h38 sur RMC et ce sont les rodéos urbains qui font débat ce matin au 32-16. Philippe est avec nous. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RMC, vous nous appelez du Gard, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, quelle solution face à ce fléau des rodéos urbains? Vous êtes vous-même confronté à ces pratiques?
Oui, disons qu'on a beaucoup de jeunes qui traînent dans le quartier. Et comme je le disais, c'est-à-dire... On a des véhicules qui ne sont pas conformes à la réglementation. Donc déjà qu'on commence par ça, c'est-à-dire ayons des véhicules qui soient conformes. Les fameux contrôles techniques, voilà, qui ont fait tant de débats. Je veux dire
Contrôle technique pour les deux roues.
Contrôle technique pour les deux roues, puisqu'on sait que 90% des petites motos, des petites cylindrées, elles sont trafiquées. Donc les motos ont des pots de déterrante, voilà. Donc ça veut dire déjà que effectivement,
vous avez l'impression qu'on se donne pas les moyens de lutter efficacement.
C'est ça. C'est-à-dire, on a l'impression que, bon, là, on fait un peu de buzz parce qu'il y a eu un accident. Donc, on a le ministre qui s'agite. Mais de toute façon, on voit que derrière, il y a pas de volonté. Pour traiter un sujet comme ça, il faut vraiment, je veux dire, le traiter dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on a toutes les lois, mais il faut les faire appliquer. Les lois, c'est la conformité déjà des véhicules, voilà, qu'ils soient conformes. On a sur l'aspect judiciaire, on a jusqu'à 5 ans, qu'on mette effectivement les jeunes en prison quand il le faut, parce que je veux dire là, on diminuera d'autant le nombre de personnes, je veux dire qui vont
appliquer les sanctions qui sont prévues, quoi.
Bien sûr, c'est évident.
Et tout à l'heure, Philippe, un policier sera avec nous et pourra dialoguer avec les auditeurs d'RMC. On lui posera justement ces questions. Quelles sont les sanctions qui sont dans les faits appliquées dans ces cas-là? Ce sera aux alentours de 8h10. Merci beaucoup pour votre témoignage, Philippe. Et à très vite sur RMC, dès 6h40.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Bon rendez-vous dans la matinale sur RMC à 7h10. Des retards pour les versements des pensions, jusqu'à 6 mois de traitement pour les nouveaux retraités. Ça met certains en grande précarité. La faute notamment à un nouveau logiciel et surtout au manque de personnel dans les caisses de retraite. C'est ce que nous dira Florence Puget, la secrétaire nationale CFDT dans ce secteur de la protection sociale. À 7h40, on reviendra justement sur ces rodéos. Quelles solutions? Est-ce qu'il y a des solutions au-delà de la répression? Des alternatives sont parfois testés. C'est le cas en banlieue lyonnaise, à Vaux-en-Velin, où le responsable d'une association organise notamment des stages à moto, des stages de motocross pour les jeunes. Il nous dira si ça fonctionne, cette stratégie de la sensibilisation. On en parlera également avec le président de la Fédération française de motocyclisme. Deux invités donc à 7h40 tout à l'heure.
Et avant cela sur RMC, des affiches anti-vaccins qui fleurissent en toute impunité à Toulouse. Liberté d'expression ou message dangereux, il faut retirer ces affiches au plus vite, nous dira Jean-Christophe Calme, médecin, président de l'Union régionale des professionnels de santé en Occitanie. C'est le parti pris du jour.
A tout de suite sur RMC. Bon réveil.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Il est 7h moins le quart.
Le parti pris.
Le parti pris du jour, c'est le vôtre, Jean-Christophe Calme. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, vous présidez l'Union régionale des professionnels de santé en Occitanie. Merci d'être avec nous. Vous vouliez réagir à cette campagne d'affichage qui provoque un tollé à Toulouse et dans sa région, des affiches en 4x3 sur des panneaux publicitaires et qui diffusent des messages anti-vax. Voilà ce qu'on peut lire. Un accident cardiovasculaire pour 100 injections. La santé de nos enfants vaut mieux que des vaccins expérimentaux. Voilà pour la citation de ce slogan. Vous avez réagi comment en découvrant ça?
Écoutez, c'est risible, c'est tellement risible que je sais même pas si c'est la peine d'en parler. Déjà parlons de la forme de l'affiche. Un accident vasculaire toutes les 100 vaccinations. En France, on est à 148 millions de doses. Ça veut dire qu'il y a eu en France 1 500 000 accidents vasculaires. Vous en avez entendu parler, vous, dans la presse?
Moi, j'ai rien entendu parler là-dessus.
Mais il est pas faux, il est archi faux, il est totalement sorti de l'imaginaire de quelques personnes délirantes. Vous imaginez qu'en France, il y en a eu 1 500 000 accidents vasculaire, il se serait rien passé. C'est-à-dire que, en gros, ça voudrait dire que 5% de la population française se serait retrouvée à l'hôpital avec un accident vasculaire. C'est totalement ridicule de dire ça.
Alors, il y a un lien qui est mentionné vers une base de données européenne, des rapports, des faits indésirables. Comment ils ont fait le lien avec ça?
Mais cette base de données, je ne sais pas ce qu'elle est. Mais vous savez, les liens entre les chiffres et le vaccin, on peut en faire beaucoup. Je peux vous dire, par exemple, qu'il y a une entorse de cheville toutes les 230 vaccinations, ou un coup de soleil toutes les 50 vaccinations. C'est ce que j'observe, moi. Quand les gens font la queue pour se faire vacciner, ils ont souvent des coups de soleil. Voilà.
Donc c'est de la manip, quoi.
C'est de la manip de chiffres, c'est absolument n'importe quoi.
Alors la difficulté, c'est que c'est une campagne parfaitement légale sur le papier, parce que ce sont des panneaux publicitaires loués par une entreprise privée. Donc ça veut dire que ce collectif qui a mis en place ces affiches à payer pour afficher. Comment on fait?
Bah, écoutez, on est en France. La France, c'est un état de droit où on a le droit de dire n'importe quoi, n'importe où. Donc c'est ce qui est fait. Et le propre de ces sociétés sectaires, c'est justement de surfer à la limite de la légalité pour pouvoir diffuser des messages totalement faux auxquels des gens crédules vont adhérer. Donc ils sont très forts là-dedans. Ils ont choisi leur terrain de jeu pour ça, c'est-à-dire la publicité sur des terrains privés. Et effectivement, la loi est un petit peu impuissante là-dessus. Ceci dit, je pense que dès lors qu'il y a une plainte déposée contre ces affirmations mensongères, on peut réagir. C'est peut-être ce qu'attendent les autorités pour réagir.
Mais il y en a eu une plainte à votre connaissance ?
Je sais pas s'il y a eu des plaintes. Vous savez, je crois franchement que ce genre de message, se dresser contre eux, en parler, porter plainte, c'est leur donner du crédit. Il n'y a aucun crédit à avoir à ça. Il y a des principes de réalité. La réalité, c'est qu'en France, il y a 55 millions de Français vaccinés avec un schéma complet, et que donc les anti-vax, qui sont une frange ultra minoritaire maintenant de la société, ont perdu leur combat. Alors je dirais que c'est les soubresauts de l'agonie des anti-vax que l'on est en train d'observer.
Mais voilà, on en parle parce que c'est vrai que ça interroge. Ça veut dire qu'on peut publier des fausses informations sur un panneau publicitaire juste pour la seule et unique raison qu'on a payé pour les diffuser. C'est vrai que ça pose quand même question. Qu'est-ce qu'on sait de ce collectif Réinfo Covid qui donc revendique ces affiches ?
Bah écoutez, si on parle de Réinfo Covid et de Louis Fouché, je vous rappelle juste que c'est le même qui a dit que le confinement est comparable au camp de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le même qui est anesthésiste réanimateur, hein, quand même, qui dit que les masques tuent. C'est quelqu'un qui a porté le masque pendant 30 ans. Moi-même, je l'ai porté une grande partie de ma carrière. Je suis encore vivant, je sais pas comment je fais. C'est le même qui dit qu'on vous injecte des puces 5G quand on vous vaccine et qu'on sert de relais à Bouygues, Orange, SFR et les autres. Bon, je veux dire, ce genre d'affirmation, il y a des gens qui croient aussi que la Terre est plate, hein, encore.
Voilà, mais qui a payé, à votre avis, qui a pu financer ça? Parce que ça doit coûter de l'argent d'utiliser un panneau publicitaire privé.
Là, vous allez sur le terrain des complotistes, hein. Je veux dire, qui finance ces sectes? Ben, écoutez, j'en sais absolument rien. Et comme le complotisme ne m'intéresse pas, je ne m'intéresse pas tellement à ce sujet.
Et vous, au niveau de votre syndicat, l'Union Régionale des Professionnels de Santé, vous n'allez pas déposer plainte?
Pour le moment, non, mais bon, si ça devait durer, effectivement, on pourrait être amené, pour protéger la population, à se prononcer, à porter plainte. Pour le moment, on l'a pas fait. On décidera peut-être de concert avec l'Ordre des médecins et l'ARS de porter plainte, parce qu'il y a vraiment un risque important pour quelques personnes crédules dans la population. Elles sont de moins en moins nombreuses, comme je vous disais, parce que quand on est à 48 millions, donc combien il y a 54 millions de vaccinés, je crois. Quand on est à 54 millions de vaccinés en France, la messe est dite, quoi. Je veux dire, les Français ont bien compris tout l'intérêt de la vaccination.
Et la préfecture envisage aussi, je crois, des poursuites. Merci beaucoup, Jean-Christophe Calm, d'être venu pousser ce coup de gueule ce matin sur RMC, président de l'Union régionale des professionnels de santé en Occitanie. Bonne journée à vous. Il est 7h10.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre, on continue de prendre des nouvelles de tous ceux qu'on a aidés et accompagnés tout au long de la saison. RMC s'engage pour vous avec Johanna Chabaz. Bonjour Johanna.
Bonjour, je vous reparle de Marina. Son refuge animalier était menacé d'expulsion. Elle aurait dû partir au début de l'été, mais grâce à une erreur administrative, elle a le droit à un sursis.
Et puis Loïc Rivière, vous avez trouvé une nouvelle carte météo à nous présenter, la météo de l'électricité. À quoi ça sert?
Et cette météo vous est présentée justement par le gestionnaire de notre réseau d'électricité pour nous aider à passer l'hiver, éviter les coupures et le retour à l'âge de pierre.
On va en parler, à tout de suite.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Vos réactions, vos témoignages ce matin sur Direct Studio. On parle des rodéos urbains. Avec vous, au 32-16, on cherche des solutions pour lutter contre ce fléau. Je suis agacée, surpris et écœurée d'entendre parler de prévention, nous écrit Al. En tant qu'enseignant, je vous le dis, ces ados n'ont pas besoin d'être prévenus des risques. Seules les sanctions sont utiles. Selon lui, ces gamins savent ce qu'ils font. Et ils s'en moquent, dit-il. Vous êtes nombreux à miser davantage sur la répression, hein, ce matin. Sony nous dit qu'il est, lui, pour que la police aillent au contact avec leur voiture ou leur moto pour stopper ces jeunes, comme ce qui se passe en Angleterre. C'est aussi ce que nous dit Jaoud ce matin sur Direct Studio. Pour Cyril, la prévention peut fonctionner un certain temps, mais ensuite, lorsqu'il retourne dans les quartiers, eh bien, les jeunes se remettront à faire des rodéos. Vous continuez à réagir sur Direct Studio.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
6h54 sur RMC.
Ça vous concerne.
Ça vous concerne avec Loïc Rivière tous les matins, ces questions que l'on se pose. Ce matin, un dispositif encore méconnu, mais qui va peut-être s'avérer très précieux hein, à la rentrée. Une nouvelle météo, ça va vous faire plus de travail. La météo de l'électricité, qu'est-ce que c'est Loïc ?
Alors cette météo ne vous sera pas présentée par Géraldine Demory cette fois-ci, mais par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, c'est moins sexy. RTE veut donc s'appuyer sur ce dispositif nommé EcoWatt pour faire face à un marché sous très haute tension à la rentrée et pour nous inciter à moins consommer. Cette météo nous permettra de suivre en temps réel la consommation dans notre région pour anticiper d'éventuelles coupures. Alors le site monecowatt.fr affiche une carte qui reprend les codes couleurs de la vigilance de Météo France, vert, jaune, orange, rouge. En vert, la consommation est raisonnable dans votre région, en rouge, la coupure est fort probable. Alors vous pouvez même recevoir des alertes par SMS ou alors par mail pendant les pics de consommation qui vont vous demander de vous adapter.
Voilà, dispositif donc qui fait appel aux citoyens, c'est quand même basé sur la bonne volonté de tout le monde, ça peut fonctionner ?
Alors il y a déjà des expérimentations poussées qui ont eu lieu en Bretagne, en Provence et même à l'échelle nationale au printemps dernier. Une vigilance orange a été lancée, les entreprises, les collectivités ont été alertées. Résultat, grâce aux bonnes volontés, on a réussi à économiser 800 mégawatts d'électricité. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville comme Montpellier sur une journée. C'est quasiment ce que produit un réacteur nucléaire dans le même temps. C'est encourageant, même si la moitié de nos réacteurs, vous le savez, sont à l'arrêt en ce moment. Alors si on reçoit une alerte, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? D'abord, pensez à baisser la température d'un degré, ce qui permet de réduire sa facture de 7% accessoirement. Vous pouvez laver votre linge à 30 degrés, régler l'eau chaude à 60 degrés, charger votre portable en début ou alors en fin de journée. Et enfin, éteindre un maximum d'appareils en veille, ce qui vous permettra d'économiser par la même occasion jusqu'à 10% d'électricité.
Voilà, alors c'est vrai qu'on risque une rentrée assez tendue, enfin un hiver assez tendu sur le marché de l'énergie. On risque d'avoir donc ces alertes à répétition potentiellement. Voilà, il va falloir s'habituer à cette nouvelle météo de l'électricité. Merci Loïc Rivière, 6h56.
RMC s'engage pour vous.
Avec Johanna Chabaz. Bonjour Johanna. Bonjour. On revient ce matin sur l'histoire de Marina. Son refuge animalier à Céret dans les Pyrénées-Orientales est menacé.
Oui, son refuge accueille des chiens, des chats, des lapins, des chevaux. Et c'est le seul de toute la région du Val-Espire, au cœur du Roussillon. Marina est installée depuis plus de 3 ans sur un terrain qui appartient à la mairie. Elle a eu l'accord de l'ancienne équipe municipale. Mais quand on la rencontre en janvier, elle vient de recevoir un courrier de la commune qui lui demande de quitter les lieu avant le 30 juin. Pour Marina, c'est incompréhensible vu la popularité du refuge.
Ce matin, par exemple, j'ai eu un abandon de chien. Demain, j'ai un abandon de chien de 9 ans. On est tout le temps appelés, que ce soit pour les abandons ou autres, et les adoptions aussi également. Les gens viennent énormément au refuge adopter les animaux du refuge. En plus, il y a les écoles qui viennent ici, les maisons de retraite qui viennent ici. Tout le monde est attaché au refuge. Ça a été fait par notre cœur en fait. Hein. On a tous relevé nos manches et on a tous construit ce refuge. Je trouve triste de la part du maire. Il y a les services sanitaires qui sont venus. Tout est aux normes, on est OK partout. Il devrait plutôt être content d'avoir ça sur sa commune.
Alors elle devait partir avant le 30 juin, on est le 18 août, on en est où Johanna ? Elle a dû partir ?
Eh bien non, Marina est toujours sur place. En fait, son avocate s'est rendue compte que la mairie a fait une erreur. Lorsqu'elle a demandé au refuge de quitter les lieux au 30 juin, elle a envoyé le courrier de mise en demeure trop tard pour qu'il soit valide. Donc finalement, le refuge est en sursis, mais la mairie pourrait retenter une procédure d'expulsion, cette fois-ci dans les bons délais. Donc Marina est toujours très inquiète à l'idée de devoir un jour partir.
J'ai très peur pour mon refuge, j'ai très peur pour mes animaux. Ce refuge, c'est seul dans le Val-Espire. On l'a construit avec le cœur, j'ai mis toutes mes économies, j'ai vendu mon appartement, j'ai vendu mes voitures personnelles. Les animaux ont extrêmement besoin de ce refuge-là. C'est pas possible, quoi.
L'avocate de Marina a déposé un recours pour que le refuge soit reconnu comme un service public. Et Marina, elle, de son côté, cherche un autre terrain sur lequel elle pourrait s'installer.
Et vous allez évidemment continuer à suivre ce dossier, Johanna. Merci, vous continuez tous à nous écrire si vous avez besoin d'aide. L'adresse mail rmcpourvous@rmc.fr. RMC s'engage pour vous. Ça continue dès lundi avec de nouveaux dossiers. Ce sera à 7h10 désormais avec Amélie Rosic qui rejoint Apolline Matin. 6h58, dans un instant, la météo et le journal.
RMC, 6h-9h. Apolline Matin.